À la naissance de Jésus, les anges annoncèrent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. » Il y a à peine 10 ans que le fléau de la guerre mondiale a pris fin. N'y aura-t-il jamais de paix sur la terre? Dans cette émission internationale, nous attirerons l'attention sur les nombreuses promesses de Dieu, qui donnent l'assurance, en dépit des échecs apparents du passé, que le plan de Dieu avance vers sa réalisation victorieuse et prochaine. Nous passons en revue les livres de la Bible et dans cette discussion, nous continuerons notre étude sur l'Épître aux Hébreux. Ces programmes vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore. Tu sais, Pierre, je comprends pourquoi les chrétiens doutent encore de la réalisation des promesses de Dieu, qui assure la paix et la bonne volonté envers les hommes. Au début du siècle, l'idée générale que la race humaine avait atteint un sommet si élevé de culture que la guerre était une chose du passé. Mais c'est l'opposé qui s'est réalisé. Pourtant, la Bible explique pourquoi, n'est-ce pas?
Oui, Thomas. Et nous trouverons la clé de la Bible, si l'on peut dire ainsi, qui donne la réponse à ce problème dans la suite de notre étude de l'Épître aux Hébreux.
Eh bien, à mesure que j'étudie ce livre merveilleux du Nouveau Testament, je trouve qu'en l'écrivant, Paul appuie particulièrement sur les dispositions que Dieu a prises en son temps à l'égard du peuple d'Israël, particulièrement en ce qui concerne le service du tabernacle, etc.
C'est juste. Et au chapitre 8 et 10 des Hébreux, Paul cite une merveilleuse prophétie de l'Ancien Testament qui se trouve au chapitre 31 de Jérémie, versets 31 à 34, où le Seigneur promet de faire une nouvelle alliance avec la nation d'Israël. D'autres prophéties révèlent aussi que cette alliance s'étendra au monde entier. C'est une alliance par laquelle Dieu écrira sa loi dans le cœur des hommes.
Est-ce la prophétie qui nous assure que le temps viendra où il ne sera plus nécessaire de dire à son voisin « Connais le Seigneur, car tous le connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand ».
Oui, et après tout, Thomas, il ne peut y avoir de paix sur la terre avant que les hommes aient appris à connaître et à servir le Seigneur.
Et si la loi de Dieu est écrite dans leur cœur comme le prophète Jérémie le déclare, cela veut dire que l'égoïsme sera remplacé par un intérêt fraternel des uns pour les autres. Et cela aussi assurera la paix parmi les nations.
Et non seulement parmi les nations, Thomas, mais aussi dans les nations et entre les individus.
Ce qui est une perspective merveilleuse. Mais en ce moment, Pierre, tout le monde redoute la destruction par les bombes à hydrogène. Dire simplement qu'il y a un bel avenir n'est pas suffisant. Ce que les gens veulent savoir, c'est pourquoi l'accomplissement des promesses de Dieu tarde tel temps.
Thomas, il n'y a vraiment pas de retard dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Le retard apparent vient de ce que nous ignorons trop souvent les plans et les desseins de Dieu. Au premier avènement de Jésus, ses disciples, connaissant toutes les merveilleuses promesses du royaume messianique relatées dans l'Ancien Testament, croyaient qu'elles allaient aussitôt s'accomplir. Aussi furent-ils très déçus quand ses ennemis l'enlevèrent et le crucifièrent.
Mais plus tard, quand il ressuscita d'entre les morts, Jésus expliqua à ses disciples que sa mort était nécessaire, que les prophètes avaient prédit qu'il serait le Rédempteur, ainsi que le roi du monde. Mais tout de même, son royaume de paix n'est pas encore établi. Plus de 19 siècles se sont écoulés, et le monde attend toujours, pour ainsi dire, le lever du soleil. Pourquoi? C'est ce que nous aimerions savoir.
Eh bien, tu vois, Thomas, l'aspect du sacrifice qu'exigeait le plan de Dieu ne devait pas prendre fin au calvaire. Nous trouvons, en examinant l'épître de Paul aux Corinthiens, que le titre de Messie, comme il est employé dans la Bible, s'applique aux vrais disciples de Jésus aussi bien qu'à Jésus lui-même. Plusieurs prophéties de l'Ancien Testament prédirent les souffrances de Christ. On comprend généralement que ces prophéties s'appliquent à Jésus, et c'est vrai, mais par le fait, elles s'appliquent aussi à ses disciples.
Je crois, Pierre, que dans une de ses épîtres, Paul parle d'achever les souffrances du Christ.
C'est juste, et je crois que ceci se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Cet aspect du plan divin est illuminé dans l'Épître aux Hébreux. Dans cette épître, Paul montre que les souffrances prédites de tous les membres du Messie sont préfigurées par divers sacrifices offerts par les sacrificateurs d'Israël pendant l'âge judaïque. De nombreux détails sur ces sacrifices et leur signification antitypique se trouve dans le petit livre Épître de Paul aux Hébreux.
Cela devrait constituer une étude très intéressante, nous apportant la lumière. Je comprends donc, Pierre, que le royaume du Messie ne fut pas établi par Jésus à son premier avènement.
C'est juste.
Néanmoins, je crois que Jésus dit à ses disciples, le royaume des cieux est proche.
C'était vrai, Thomas, dans le sens qu'alors, le royaume longtemps promis commençait à se préparer. Jésus lui-même était venu, celui qui deviendrait le roi des rois dans le royaume messianique. Dans les siècles qui suivirent, Dieu appela hors du monde ceux qui partageront avec lui l'honneur et la gloire du royaume.
Et l'épreuve en vue de cette haute position fut leur acceptation de suivre dans les traces de Jésus dans le sacrifice et la souffrance. Est-ce bien cela?
Oui. Jésus dit, tu t'en souviens, « Si un homme veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. »
Et Paul écrit que ceux qui souffrent avec lui régneront aussi avec lui. Alors je peux voir que le véritable règne de Christ qui bénira toutes les familles de la terre ne peut pas commencer avant que tous les membres du Christ furent prouvés dignes d'être avec lui dans son royaume en sacrifiant leur vie à son service. Pierre, quand ce royaume sera enfin établi, il y aura une véritable paix universelle, n'est-ce pas?
Oui, une paix universelle et durable.
Il n'y aura plus de guerre dans tout le vaste monde.
Il y aura une paix universelle dans un sens bien plus grandiose que cela.
Que veux-tu dire?
Ce que je pense est suggéré dans la promesse de Dieu de faire une nouvelle alliance avec les hommes. Cette promesse merveilleuse que Paul cite dans les chapitres 8 et 10 de l'Épître aux Hébreux.
Veux-tu dire la promesse d'écrire cette loi dans le cœur des hommes?
Oui, tu vois, de nos jours, les nations ne connaissent pas d'autre moyen d'éviter la guerre que de rester fortement armées. C'est parce que l'égoïsme domine dans tous les rapports humains.
Il y a bien des gens de nos jours qui reconnaissent que la seule chose qui puisse empêcher la ruine complète de la civilisation est le réveil spirituel de l'homme, qui devra en même temps rejeter l'égoïsme.
Ce qui est vrai. Mais la difficulté est que l'homme ne possède pas les ressources spirituelles qui produisent ce réveil. Dieu seul peut le faire, et c'est exactement ce qu'il a promis par l'intermédiaire du royaume de Christ.
Et comme je le comprends, ce sera le moment où les nations transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en serpes.
Oui, et les prophètes Ésaïe et Michée nous assurent toutes les deux que ce moment arrivera et résultera du fait qu'à la longue, les nations auront appris la futilité de leurs efforts et diront « Montons vers le royaume du Seigneur ». Et il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Et Thomas, la même prophétie nous assure que lorsque les hommes reconnaîtront les voies de Dieu, ils n'apprendront plus l'art de faire la guerre. Michée chapitre 4, versets 1 à 4.
Eh bien, ce sera un changement remarquable dans le point de vue du monde et dans l'expérience humaine. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, cela amènera la paix non seulement entre les nations, mais au sein des nations. Cela supprimera les préjugés égoïstes et l'intolérance. Et puisque Dieu l'a promis, on ne peut pas dire que c'est trop beau pour que ce soit vrai.
Dis plutôt, Thomas, c'est trop beau pour ne pas être vrai. Et le plan pour la paix s'étendra encore, car Dieu établira la paix entre les hommes et lui. C'est à cause de son éloignement de Dieu, au cours des siècles, que l'homme a atteint l'impasse dans laquelle le monde se confond aujourd'hui.
Veux-tu dire que Dieu fera un traité de paix avec les hommes?
Pas exactement cela. La Bible l'appelle une alliance. La nouvelle alliance à laquelle Paul fait allusion dans l'Épître aux Hébreux en citant la prophétie de Jérémie.
C'est l'alliance par laquelle Dieu écrira sa loi dans le cœur des hommes, comme nous l'avons vu il y a quelques instants.
Oui, cette alliance, selon la Bible, est scellée par le sang de Christ. Tu vois la race humaine séparée de Dieu depuis la transgression à la loi de Dieu par nos premiers parents. Cette transgression amena non seulement la perte des faveurs de Dieu, mais aussi la perte de la vie. Mais Dieu aima sa créature humaine, et envoya son Fils pour racheter l'homme de la mort et donner à ce dernier l'occasion de revenir en harmonie avec lui et de vivre éternellement.
La promesse de faire une nouvelle alliance avec les hommes est donc en réalité une promesse de rendre la race déchue en harmonie avec Dieu, ceci devant s'accomplir par l'œuvre rédemptrice de Christ. Mais Pierre, cette œuvre est encore future. En attendant, les hommes continuent à mourir. Toutes les générations passées de la race humaine sont mortes. Comment tous ceux-là auront-ils l'occasion d'entrer dans la nouvelle alliance avec le Seigneur et de vivre à jamais?
Dieu a promis une résurrection de tous les morts, afin qu'ils aient aussi l'occasion de rentrer en harmonie avec lui. Ainsi, tu vois, la paix sera rétablie entre Dieu et les hommes. Cette paix, une fois restaurée, la condamnation supprimée, les hommes n'auront plus besoin de mourir. Cela veut dire qu'à la fin, il y aura la paix universelle, la joie et la vie. Thomas, n'est-ce pas merveilleux que la Bible offre une telle espérance au monde angoissé d'aujourd'hui?
Oui, Pierre, et je suis content qu'il y ait tant de preuves scripturales dans le petit livre Épître de Paul aux Hébreux. Amis, ce petit livre est le 8e d'une série qui passe en revue tous les livres de la Bible. Vous êtes invités à demander de suite votre exemplaire gratuit. L'Épître aux Hébreux est l'un des livres les plus intéressants du Nouveau Testament, et le petit livre que nous vous offrons vous aidera à le mieux comprendre. Il répond aux questions telles que « Quand est-ce que la domination de la terre sera rendue à l'homme ?» La Bible nous dit que, lorsque Jésus vint sur la terre, il fut fait un peu inférieur aux anges. Pourquoi cela fut-il nécessaire? Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce que l'Église des premiers-nés, mentionnée dans l'Épître aux Hébreux? Quand l'alliance de paix promise par Dieu sera-t-elle établie avec les hommes? Quand est-ce que le désir de toutes les nations se réalisera-t-il comme Dieu l'a promis? Ces questions ne sont que quelques-unes d'importance vitale pour vous et vos amis, et auxquelles répond le petit livre « L'Épître aux Hébreux ». Demandez un exemplaire gratuit. Demandez simplement « Le livre des Hébreux ». Le livre vous sera envoyé gratuitement et franco. Ces émissions d'études de la Bible vous sont présentées par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Parlez-en à vos amis. Et que Dieu vous bénisse tous.